Good evening business. L'invité.
Allez, 18h19 de retour dans Good Evening Business sur BFM Business et c'est Jean-Marc Houet, le président du conseil de surveillance de Brittany Ferries qui est avec nous. Bonsoir monsieur Houet.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de passer nous voir. La compagnie maritime basée à Roscoff, évidemment dans le Finistère, on rappelle où vous êtes. C'est combien de navires Brittany Ferries aujourd'hui?
11 navires en exploitation.
11 navires en exploitation.
Et un bateau en livraison, donc un bateau, ça qui va arriver début 2023.
Et on vous retrouve dans 11 ports, hein. Ça va de Roscoff à Bilbao, en passant par Caen, Le Havre, Plymouth, j'en oublie, Santander, évidemment. Comment va l'été? On va raconter dans un instant, on va revenir pas trop longtemps, mais quand même sur les 2-3 années que vous venez de dire, qui sont absolument épouvantables, on va raconter tout ça. Comment ça va au sortir de cette période estivale?
Ce qui est formidable pour la compagnie, c'est qu'on a pu redémarrer à la date où on avait prévu, c'est-à-dire fin mars, début avril, que la clientèle est de retour en ce qui concerne le passager. Il y a des plus et des moins selon les lignes et selon les destinations.
Vous, il y a les particuliers et il y a le fret aussi, hein, évidemment.
Alors, le fret, en fait, c'est la première année où on a une véritable mesure de l'impact du Brexit. Et si on prend pour tous les ports de France, de Dunkerque à Saint-Malo, Dunkerque à Roscoff, pardon, c'est -15%.
-15%.
C'est-à-dire que les échanges économiques entre la Grande-Bretagne et le continent européen passant par les ports français est en diminution de 15%.
Et vous êtes un baromètre absolu de ça, de cette
tendance. C'est tous les transports, en fait. Les transports sont un baromètre de l'économie. Oui. Donc, c'est vrai que le baromètre de la Manche pour l'économie des échanges entre le UK et le continent européen sont évidemment, c'est un baromètre très précis.
Quelle proportion de votre chiffre d'affaires vous faites et sur les particuliers, sur le fret, vous savez?
En fait, c'est la particularité de Brittany Ferries. On est d'abord un très gros transporteur de passagers britanniques Holidays. Européens de plus en plus aussi, puisqu'on a fortement développé nos destinations vers l'Irlande, la République d'Irlande.
Donc, ça, c'est une des conséquences du Brexit ou...
Oui
et non. Le Brexit qui vous a forcé.
Avant le Covid, on avait décidé d'augmenter notre capacité, mais on ne l'a pas fait parce que Covid étant arrivé, fermeture des frontières, ça valait, c'était pas la peine. Donc, on l'a mis en activité dès 2022. Donc, si je résume, en fait, on a vécu sur cet exercice 5 mois d'inactivité, puisque du 1er novembre jusqu'à fin mars, il n'y avait quasiment pas de clients passagers. Et on va faire 1 900 000 passagers sur 7 mois d'exercice versus 2019 sur 12 mois où on faisait 2,5
millions. Donc, c'est une belle performance. Oui, c'est des belles performances, mais vous n'avez pas encore effacé toutes les séquelles et du Covid et du Brexit, finalement.
Le vrai sujet de Brittany Ferries, c'est de continuer dans cette performance économique au bénéfice de pouvoir rembourser sa dette Covid.
Bien sûr.
Puisqu'on en a contracté une belle, quand même, malgré tout, quasiment 200 millions d'euros. Ouais. Donc, mais ceci étant dit, ce n'est pas non plus incontournable pour une entreprise comme Brittany Ferries.
Mais alors justement, ça passe par quoi? Parce que l'avenir d'une compagnie comme la vôtre, si finalement, c'est d'élargir le nombre de destinations, c'est d'élargir la palette des services. Comment est-ce que vous allez réaliser ce pari dans les prochaines années, finalement?
C'est de confirmer notre redressement. Ouais. Et l'exercice 2023, évidemment, et avec une année pleine sans Covid, quelque part pour nous, c'est le baromètre qui va nous permettre de confirmer ce qu'on a déjà présenté aux investisseurs qui sont venus chez nous, à nos prêteurs privés, et en même temps à nos salariés aussi, puisqu'il y a quand même eu une situation un peu anxiogène, avec beaucoup de chômage partiel, un redémarrage retardé, et puis voilà. Et puis surtout, le renouvellement de la flotte. On a l'image d'un bateau neuf à l'écran.
Alors, expliquez-nous, parce qu'il y a plusieurs bateaux, effectivement, il y a plusieurs...
En fait, avant la crise Covid, nous avons choisi de renouveler notre flotte vers un carburant de transition qui est le GNL. Il y en avait 3 aux commandes. Et pendant la crise Covid, on n'a pas ralenti le pas. On en a commandé 9. Un avec la région Bretagne, donc présidé par Hervé Morin, et un autre avec la région, région Bretagne, donc présidé par Loïc Chesne-Girard, et un autre avec la région Normandie, présidé par Hervé Morin. Donc, on a maintenu cette cadence parce que, quelque part, dans le renouveau de l'entreprise, la transition énergétique et la capacité à l'entreprise respecter les enjeux du respect de l'environnement, évidemment, on voit son avenir comme ça.
Ça, c'est une demande de vos clients ou pas? La transition énergétique, oui, pourquoi?
C'est plutôt une vision de l'entrepreneur que je suis avec mes équipes sur le fait que, vraisemblablement, le transport du futur passera aussi par là.
Oui.
C'est-à-dire que...
Au sens large, le croisiériste,
Oui, et on n'est pas les seuls à penser
à la même
chose.
Bien sûr.
Nous, dans notre secteur d'activité, on est les seuls.
Oui. Donc, la question que je vous posais, c'est ça, c'est... Pour éponger une partie et revenir à la profitabilité d'avant, c'est quel nouveau modèle finalement pour votre compagnie maritime? Est-ce que c'est plus de destinations? Est-ce que c'est plus de services? Qu'est-ce que vous pensez devrait apporter
C'est
de
continuer
demain,
à être le premier opérateur dans son panel de clientèle qui est britannique pour destination France et Espagne, Holidays en voiture, modèle, je dirais, safe carbone, si on veut, et safe même carbone. Safe Covid pour le transport de passagers. C'est pas des centaines de milliers de personnes dans un aéroport venant de toutes destinations qui se mélangent. Voilà. Nous, c'est une destination, un port, on monte avec sa voiture, on va dans sa cabine, et si on a peur, ben, on y reste. Donc, ça fonctionne. On l'a prouvé pendant la crise également.
Donc, on dit que le modèle ensuite, est viable. Pour sortir de la crise, le modèle est viable.
Oui, le renouvellement de la flotte, parce que quelque part, c'est des conditions qui nous sont dictées par l'OMI, le régime international qui nous conditionne en matière environnementale. Donc ça, c'est en cours, donc ça va continuer. On n'a pas décidé de le stopper ou de le ralentir, au contraire. Et ensuite, c'était aussi quelque part ce que je souhaitais évoquer dans cette sollicitation à l'interview, c'est attention, chaque crise apporte ses modèle économique disruptif. On a connu 2008, ça a été la disparition de Seafrance sur le détroit du Pas-de-Calais.
Exactement.
Armement français.
Ouais.
Aujourd'hui, la crainte que j'ai, c'est que, à peine la crise Covid était derrière nous, je tiens à rappeler qu'une compagnie majeure sur le détroit du Pas-de-Calais a décidé de licencier, de liquider, de virer 800 marins britanniques au bénéfice de prendre des marins malgaches, péruviens, boliviens, pour armer des bateaux sur le détroit du Pas-de-Calais. Ces marins, moi j'ai rien contre eux. Au contraire, quelque part, si ça leur permet d'avoir du travail, quelque part, je suis content pour eux. Mais ils travaillent sans cotisation retraite, donc pas de retraite dans le futur, et pas de protection santé. Moi je suis désolé. On peut appeler ça de l'ultra-libéralisme économique, moi j'appelle ça la loi de la jungle. Je pose une question. Est-ce que les clients français, puisque je parle plus facilement aux Français chez BFM Business, est-ce qu'ils accepteraient une minute les conditions sociales des gens qui les servent dans ces bateaux? La réponse est non.
Donc vous dites quoi, aujourd'hui, concurrence déloyale? Voilà de ça, pas seulement concurrence déloyale.
Il y avait un modus vivendi sur le transmanche qui faisait que nous avions un pavillon britannique, un pavillon français, et voilà, ces deux pavillons cohabitaient.
Donc aujourd'hui, vous demandez quoi à qui exactement dans
Je considère que l'État britannique a lancé une idée qui est donc de trouver... reconstituer un modus vivendi volontaire avec des armateurs. Nous sommes quatre armements à avoir dit oui au gouvernement britannique Ferries, DFDS Seaways, Stena Line, et puis Condor Ferries. On dit banco, on signera. Si tant est qu'ils vont jusqu'au bout de leur démarche, on signera. Ouais. Il y a trois autres compagnies, Piano, Irish Ferries et Cobblefred, qui disent non, on signera pas. Bon, très bien. Quelque part, est-ce que oui ou non, en France, on va rester totalement inactif par rapport à ce sujet, alors que le président Emmanuel Macron, dans son précédent mandat, avait lancé durant la PUFUE, la présidence française de l'Union européenne, un colloque qui a eu lieu à La Rochelle sur le dumping social dans les transports. Donc quelque part, on est un peu sur la même idée. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Et je dis que pour le maritime et le shipping français, il y a encore une urgence prioritaire, c'est que nous n'avons pas de règlement de l'espace aérien européen, nous n'avons pas de règlement pour le transport routier européen, nous sommes sur des normes internationales.
C'est ça qui vous fait dire qu'on est dans la loi, c'est la loi de la jungle.
Et
ça,
quelque part, c'est un appel quelque part à la Première Ministre, Mme Elisabeth Borne, qui connaît très bien le sujet, qui a beaucoup travaillé sur le dossier britannique Ferries devant la crise Covid, donc elle connaît aussi les conditions de sortie de cette crise qui nous ont été actées, donc faisons en sorte que ce soit continu, et ensuite également au collectif des représentants des salariés. Où sont-ils sur ce sujet?
Le message est passé ce soir. Merci Jean-Marc Rouet. Voilà. J'ai vu que les réservations pouvaient déjà se faire pour le printemps prochain, l'hiver prochain.
Depuis le mois de juillet, vous pouvez réserver pour la prochaine saison estivale, notamment pour aller en Irlande, par exemple.
Sur la table. Merci beaucoup Jean-Marc Rouet, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business. 18h27, on marque une petite pause. On vous redonne les grands titres dans un instant. Et puis nos débatteurs sont là jusqu'à 19h pour refaire le monde, mais plus modestement déjà l'actu du jour. A tout de suite.
Good evening business. Le débat.
Mais oui, ils sont là comme tous les soirs, nos débatteurs fidèles au poste pour refaire l'actu du jour. Pierre Kufferman est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bienvenue éditorialiste éco BFM Business. Frédéric Farret avec nous. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Bienvenue économiste, enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Jean-Marc Sylvestre, journaliste éditorialiste à Atlantico est avec nous. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, merci messieurs d'être avec nous ce soir. Alors on a commencé, on entendait Faiza qui nous rappelait effectivement ces nuages qui s'amoncellent, comme dit l'expression consacrée, sur l'économie de la zone euro. Vous avez vu les chiffres du chômage en août en France, ces PMI là qui ne sont pas bons en Europe. Est-ce que vous commencez à sentir le parfum de la récession là en France, en Europe, Frédéric? Comment est-ce que vous regardez ça, vous?
Moi, je vais essayer. Hein, je vais tenter de faire le
boule de cristal. Voilà,
la boule de cristal, Nostradamus qui va tenter de répondre. Ouais. Écoutez, je ne sais pas si c'est un coup de froid ou un trou d'air ou si on s'en va vers quelque chose de plus problématique. Alors si on essaie de regarder un peu objectivement les choses. Pour l'énergie, c'est pas de bonnes nouvelles, ouais. Ça risque de renchérir, donc la facture de gaz, ça va être aussi un problème. L'inflation s'envole d'ici de là, si en plus il y a un resserrement bancaire à venir plus dur que prévu, bah, ça peut avoir aussi des effets négatifs, même si on restera toujours en taux d'intérêt réel négatif,
parce que
vu l'inflation, on ne sera pas en taux d'intérêt réel positif. On pourrait dire que si la confiance qui est essentielle dans l'activité économique s'effrite, ça pourrait avoir des décisions sur l'investissement et l'économie. Et je dirais aussi, alors là je me fonde sur le passé, à aucun moment de son histoire, c'est-à-dire depuis 99, la zone euro a été à un moment une zone très dynamique de croissance.
C'est vrai.
Elle l'a jamais été. Donc ce qui fait que s'il y a des vents mauvais qui arrivent dessus, bah, dans une zone qui historiquement sur 23 ans n'a jamais été une zone très 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 dynamique, d'autant plus que ce qui me pose aussi problème, c'est que la dynamique européenne qui vient aussi de l'Allemagne, d'une certaine façon, est en train de se gripper.
Donc ça veut dire qu'on va revenir sur le train-train de la croissance molle en Europe, c'est ça finalement Jean-Marc qui nous attend d'une certaine façon.
Alors on risque effectivement de revenir sur un train-train de croissance molle qu'on n'a jamais beaucoup quitté. Hein. C'est vrai ce qui vient d'être dit. Je suis pas trop pessimiste, je suis surtout moins noir que la plupart des économistes qui ont quand même tendance à voir le verre à moitié qui est plein plutôt
merci
que
pour votre bazar, hein.
À moitié vide. Non, c'est vrai que le commerce de la peur fonctionne aussi pas seulement chez les politiques, il fonctionne aussi chez les économistes qui ont quand même tendance à se délecter entre guillemets des mauvaises nouvelles.
Et c'est vrai que pas, là,
souvenez-vous ce qu'on disait au moment du Covid, que ça allait être une catastrophe,
c'est vrai.
Que ça allait être une tragédie économique, qu'on allait vers des faillites extraordinaires et des chômages absolument épouvantables. On parlait de 1929, c'était épouvantable. Et moi, petit économiste, à ma petite échelle, dans un petit site internet qui s'appelait Atlantico, je disais non, vous savez, c'est peut-être les années folles, ça va peut-être être les 30 glorieuses, il va y avoir un rebond, parce que en fait, les actifs de production, à ce moment-là, n'ont pas été touchés. Mmh. On n'a pas eu de destruction d'actifs. On avait tout mis en sommeil, on avait confiné, ce qui fait qu'au moment où on a remis les clés dans les moteurs, ben, c'est reparti comme en 40. C'est reparti très vite.
Mais là, vous avez une guerre, donc vous ne savez pas.
Et c'est peut-être reparti trop vite. Et ça a masqué, en repartant trop vite, les difficultés intrinsèques et structurelles que nous avions. Donc, on a un ralentissement aujourd'hui. Je pense qu'on a des effets qui se cumulent avec la guerre en Ukraine, qui se cumulent également avec des mutations structurelles
Bien sûr.
Il va falloir qu'on parle parce qu'elles sont
et qui sont multiples. On n'a jamais connu une succès.
Mais on a deux grandes mutations structurelles qui sont en train de s'opérer. Que l'on ne veut pas voir. Un, on a une mondialisation qui est en train de changer de logiciel et de paradigme. Et deux, on a une mutation écologique qui va sans doute un peu vite par rapport à la musique.
Pierre, comment est-ce que vous regardez ces chiffres ? Vous dites quoi ensemble en regardant
ce tableau ? Moi, ce que je souligne, c'est le niveau de l'épargne des ménages.
Eh oui.
Parce que
vous avez les chiffres du livret A aujourd'hui ?
Non, mais voilà. Non, on a parlé du livret A, mais d'une façon générale, quand on regarde les chiffres de la Banque de France,
alors
c'est les chiffres du premier trimestre.
C'est le meilleur mois de juillet pour le livret A depuis 2009.
L'épargne des ménages, tout type de produits d'épargne confondus, et l'encours total, 400 milliards d'euros de plus qu'à la fin 2019. Vous voyez qu'il y a quand même encore de la marge. Il y en a sous le coude, quoi.
Il y en a sous le pied.
C'est pas inquiétant. Enfin, c'est pas inquiétant. On ne sait pas ce que les ménages vont faire de leur épargne. On est bien d'accord. Est-ce qu'ils vont le mettre de côté par peur, par exemple, d'avoir des impôts à payer plus tard, par peur de l'avenir, parce que l'économie c'est toujours la confiance ou le manque de confiance. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a un niveau d'épargne qu'on n'avait pas avant la crise Covid.
Frédéric,
En fait, c'est un vieux problème aussi européen, même si on n'a pas les mêmes niveaux avant. C'est-à-dire, la zone euro ou même la France ont été une zone excédentaire en matière d'épargne. On n'a jamais été une zone déficitaire en matière d'épargne. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Première chose.
Parce contrairement
qu'on...
à ce qu'on...
Contrairement, oui,
contrairement à ce qu'on n'arrête pas de dire.
On ne vit pas au-dessus de nos moyens, parce que si on est en épargne excédentaire, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Donc ça, c'est... Alors, l'idée qu'on vivrait au-dessus de nos moyens, je crois que les gens, je sais pas, ils n'ont pas bien compris, ou il y a un truc qui échappe.
Non, ce qu'il y a, c'est que c'est pas équitablement réparti.
Voilà, donc ça c'est un. Deuxièmement...
Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que d'autres.
Oui, alors deuxièmement, c'est que l'épargne, on l'a vu au moment de Covid, était plutôt concentrée dans la distribution du revenu vers le haut, ça c'est sûr. Et troisième problème, c'est comment transformer cette épargne en Europe en un investissement productif et pas spéculatif. C'est-à-dire, si on a l'épargne, c'est-à-dire ce qui peut financer l'investissement, comment faire, comment dire, que cette épargne soit disponible pour devenir de l'investissement. Et là, on retrouve la question de la confiance.
Mais bien sûr.
Si c'est une épargne qui est une fuite du circuit, c'est ça le
problème. Et ça fait des années qu'on s'escrime à essayer de produire, de mettre sur pied des outils qui permettent aux Français d'épargner dans l'économie réelle plutôt que de laisser ça sous
le mat. Absolument passionnant.
Mais on n'y arrive pas.
Ce qui vient d'être dit, parce que là, on a l'explication de l'inflation. On est en train de faire des tonnes et des tonnes sur l'inflation qui aujourd'hui, et vous aviez raison, c'est une inflation qui est limitée. Qui est limité à l'énergie, les matières premières, la facture énergétique est colossale pour un pays comme la France, donc elle se répercute directement sur le consommateur, lequel consommateur va faire des revendications de salaire, donc on a un risque de boucle un peu pervers, prix-salaire, qui risque de nous entraîner un peu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'inflation qui nous inquiète, et même si on ne l'explique pas et si on ne l'exprime pas, c'est une inflation à plus long terme, qui est lié à notre incapacité d'assumer les mutations auxquelles nous sommes confrontés. La mondialisation. Si véritablement, demain, la mondialisation change de logiciel, c'est-à-dire que si Apple se met à fabriquer dans des pays moins autoritaires que la Chine, puisque c'est Berlin qui veut y aller. Vous en parliez très bien tout à l'heure. Si nous rapatrions vers l'Hexagone ou vers l'Europe des industries, c'est le Made in France, ça va coûter plus cher au consommateur. Il va falloir que le consommateur le paye. La mondialisation, elle a permis de distribuer du pouvoir d'achat.
Absolument. Je fais un peu de provoque parce que je vous posais la question de la récession. Apparemment, pour vous, c'est pas forcément une fin, c'est pas un drame. Il y a récession et récession. Vous avez certains économistes qui vous disent aujourd'hui, mais après tout, est-ce que, pardon, on va le dire comme ça, de la même façon qu'on dit, il faudrait une bonne petite guerre, une petite récession, ça calmerait pas pour de bon les prix? Ça n'a pas le mérite au moins de trancher ce dilemme auquel on ne sait pas répondre. Comment est-ce qu'on combat l'inflation aujourd'hui? En distribuant des chèques, en distribuant de l'argent, donc en entretenant un cycle inflationniste. Est-ce qu'au moins une petite récession soft et non durable ne calmerait pas durablement?
Ça va calmer les indices, c'est sûr, mais ça va mettre des gens dans la rue. Ça le problème. Quand on distribue des chèques, c'est évidemment pour éviter un mouvement des gilets jaunes.
Regardez l'impasse dans laquelle on est.
Oui.
Pour essayer de juguler l'inflation, on distribue des chèques, on entretient le cycle inflationniste.
C'est assez lié. Oui.
Là-dessus. Allons-y. Ouais. Donc, on sait très bien que, historiquement.
Une bonne petite récession.
On augmente, en théorie, d'un demi-point le taux d'intérêt en tant que tel, ou même plus, on sait que, globalement, alors là, le contexte est particulier, on va fabriquer du chômage. Il faut bien le comprendre. Parce que, dans le fond, une politique monétaire restrictive, si elle devient très restrictive, pourquoi ça fabrique du chômage? Ça fait moins d'investissement pour les entreprises parce que ça coûte plus cher si on doit financer le crédit, moins de consommation. Donc, moins de consommation, moins d'investissement, moins de débouchés. Si moins de débouchés, moins de production. Si moins de production, moins d'embauche. Si moins d'embauche, ça fait moins de salaire. Ensuite, après, ça fait moins d'investissement et autres. Et là, on change de cercle vicieux. Respire. Et on passe du problème de l'inflation à un autre problème, qui est la déflation. L'inflation est parfois plus facile à combattre que la déflation, car, comme le disait très bien le patron de la banque centrale japonaise autrefois, Kuruda, il disait, qu'est-ce que c'est que la déflation? C'est comme si vous jouez au golf, vous mettez la balle dans le trou et vous essayez, pour la déflation, de prendre votre club et essayer de sortir la balle du trou avec votre club. Vous n'y arriverez pas. Et lui, il savait de quoi il parle, parce que le Japon a pris plus d'une décennie de déflation, donc c'était épouvantable. Donc, si on se dit qu'il faut faire un arbitrage, c'est-à-dire supporter plus de chômage pour avoir moins d'inflation, puisque c'est ça l'histoire. Parce que n'oublions pas que pendant les 30 Glorieuses, on avait ce qu'on appelait l'inflation rampante. Qu'est-ce que c'était l'inflation rampante? C'était l'inflation qui accompagnait la croissance. Donc on avait à peu près 4-5 de croissance et on avait de l'inflation autour de 4-5. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'inflation rampante? Parce que on donnait beaucoup, beaucoup de pouvoir d'achat à la demande. Parfois, ça crée une tension sur l'offre. Et qu'est-ce qui se passait? Les prix augmentaient. Donc aujourd'hui, si on pense qu'alors qu'on a déjà supporté le Covid, on a déjà supporté la crise de 2008, on va dire à certains qui sont déjà vulnérables, prends-toi une récession sur la tête. Là, c'est gilet jaune puissance X.
D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne, elle est très contradictoire dans sa politique. Elle suit la Banque Centrale Américaine en remontant ses taux. Par ailleurs, elle continue de dire aux États, continuez d'émettre puisqu'on va racheter vos titres. D'un côté, je retire, de l'autre côté, je donne.
C'est toute l'histoire, de la BCE depuis le début. Elle réagit plus qu'elle n'agit.
Moi, je vois les banques centrales qui commencent à remonter leurs taux. Dans quelle proportion on va pas recommencer à les baisser dans l'urgence d'ici 6 mois, 1 an?
Oui, elle ne va pas rebaisser ses taux dans les 6 mois. Elle va continuer, sa politique
de gagner
modérée
du temps.
De hausse des taux. Allez. Mais elle continue d'avoir une politique de rachat de titres, d'émissions.
18h44, on marque une pause, on revient dans une minute. On va parler de la sobriété énergétique avec cette histoire de jet privé qu'on a voulu creuser parce qu'on se demande tous... Après le jet privé, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on nous interdit? Voilà, est-ce qu'on fait de la sobriété coercitive, comme on dit? On en parle dans un instant, tout de suite.
Good evening business, le débat.
Le débat qui continue, Good Evening Business en direct sur BFM Business, votre nouveau rendez-vous tous les soirs, 18h-20h. On est avec Jean-Marc Sylvestre, avec Frédéric Farah, avec Pierre Kufferman. Alors on va repartir, messieurs, sur... cet épisode qu'on a commenté, l'affaire des jets privés, vous savez, la sortie de Clément Beaune, qui voulait supprimer ces jets privés qui consomment beaucoup plus de...
Vous voulez réguler.
Réguler. Parce qu'il
consomme... prend sa défense, c'est plus subtil que ça, quand même. C'est plutôt du côté des verts qu'on veut supprimer.
Consomme 10 fois plus de kérosène, c'est ça, nous a dit Clément Beaune. Bon. Et on remercie nos confrères de l'opinion, parce que c'est eux qui ont posé la question ce matin, qui nous disent, est-ce qu'on n'a pas ouvert une sorte de boîte de Pandore? Aujourd'hui, les jets privés, mais demain, va-t-on nous faire subir de nouvelles contraintes pour réussir la transition énergétique? Et des contraintes qui ne concerneraient pas que les plus riches, je lis le papier de nos amis de l'opinion. Et après, les riches, après les jets privés, est-ce qu'on étendra ça aux bateaux de plaisance, aux résidences secondaires? Est-ce qu'on interdira de faire des trajets réguliers seuls ou à deux dans une voiture? Est-ce qu'on empêchera de remplir sa piscine? L'étape d'après, c'est une bonne question qu'on pose finalement. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va être le début de la sobriété coercitive pour tous, Pierre?
Sobriété coercitive, je ne sais pas, mais il y a des tas de moyens d'être sobre. Moi, j'ai regardé avec en détail les propositions de Terra Nova. Elles sont de bon sens, en vérité. On peut être sobre sans que ce soit coercitif. Il faut juste être un petit peu rationnel. Il faut aussi...
Non, mais lorsque le gouvernement va nous annoncer, va nous demander de faire comme effort, ça peut être perçu comme coercitif. Là, on va rentrer dans une campagne de communication.
Prendre un exemple très concret. Moi, j'ai entendu les responsables de la grande distribution être un peu offusqués que l'une des obligations qui leur sera faite, c'est de mettre des ombrières avec de la production photovoltaïque sur leur parking. En expliquant, nous on fait déjà un effort énorme en respectant les nouvelles normes, à savoir qu'on va empêcher la chaleur de sortir de nos portes, on va éteindre nos devantures, ça c'est des économies qui sont faites. C'est pas une dépense. Vous voyez, on leur demande d'être vertueux, mais pour faire des économies. Il y a rien de scandaleux à ne plus avoir à ne plus garder son magasin allumé toute la nuit. C'est pas forcément utile. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais ça n'est pas fondamentalement utile.
Ça peut être aussi inutile ou pervers même à l'égard de l'action commerciale que vous menez dans un magasin. Que la vitrine soit éclairée, c'est quand même un facteur important pour attirer le chaland.
Mais la nuit, à 2h du matin, quelle importance?
Vous voyez, on va rentrer dans des débats et dans des considérations qui vont être
picrocolines.
Vous savez que en Allemagne où ils sont beaucoup plus avancés sur ces thématiques, par exemple, ils ont décidé que les bâtiments historique, oui. qui le Bundestag à Berlin, le château de où fallait l'équivalent de l'Élysée, hein, où a le président, oui. où vit le président de la République. Ouais. Tout ça, ce n'est plus éclairé la nuit. Bon, enfin, est-ce que c'est scandaleux? C'est pas scandaleux.
C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'en matière d'écologie, les Allemands font n'importe quoi. Hein.
Mais en quoi c'est n'importe quoi? Ça fait vraiment réduire la facture énergétique.
Non.
En quoi c'est grave? Et en tout cas, c'est pas ce que je voulais, c'était que on invite un certain nombre d'acteurs à faire des économies, et quand on leur demande par ailleurs d'investir dans des parkings qui vont produire de l'électricité photovoltaïque, ils s'offusquent.
Moi, je vous attends plus sur ce qui seront les préconisations, pour ne pas dire plus, du gouvernement dans les prochains mois, les prochaines années, pour encourager la sobriété énergétique qui va être perçue comme de la sobriété coercitive. C'est là-dessus que je vous attends.
Deux toutes petites choses là-dessus. Parce que le débat, il a l'air d'être marginal, mais il est quand même très important et il marque effectivement des empreintes en matière de discours politique. Deux choses. La première, c'est comme la mondialisation, je crois que la mutation écologique va entraîner des hausses de prix. Et ça, j'ai pas encore entendu aujourd'hui les courants écologiques le dire. Hein, ils préfèrent laisser les gens enfermés chez eux et les empêcher d'aller dans un magasin plutôt que de réfléchir à pourquoi les prix sont un peu plus élevés aujourd'hui qu'on les fabrique en France qu'auparavant. Donc, le made in France, l'écologie, va coûter un peu plus cher. Et ça coûtera d'autant plus cher que la seule mesure qui est admise par tout le monde et qu'on n'arrive pas à mettre en place serait de définir un prix du carbone, parce que à partir du moment où vous définissez le prix du carbone, vous facturez le prix du carbone et vous savez très bien que le pollueur va payer à ce moment-là, vous le savez. Mais si on définit le prix du carbone pour le type qui utilise son jet et qu'on ne le définit pas pour celui qui utilise Iranair, il va y avoir un problème.
À propos du jet, je note quand même que la législation européenne qui vise à obliger les compagnies aériennes d'utiliser du carburant durable et à taxer le kérosène ne concerne pas les jets.
Oui. Alors, pour terminer.
Au-delà du jet privé, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore à d'autres contraintes?
Oui. Alors, c'est vrai qu'on arrive tout de suite à des mesures qui sont un peu punitives, un peu coercitives. Je trouve que, en France, la variable prix, on n'ose pas l'utiliser, mais elle est pourtant, c'est pourtant une variable d'ajustement qu'on a utilisée dans l'histoire de tous les temps. Bon. Et les bonus malus, par exemple. Moi, je voyais l'autre jour, la limite limitation de la vitesse sur les autoroutes. C'est une idée qui circule dans les cabinets ministériels aujourd'hui pour pouvoir faire baisser la consommation d'énergie. Alors, est-ce qu'on va le faire de façon autoritaire ou est-ce qu'on va le faire de façon incitative? Et on a tous les moyens.
Il faut le faire de façon incitative.
On a tous les moyens digitaux pour savoir à quelle vitesse vous avez franchi deux barrières de douane, de péage. Et en fonction de votre vitesse entre deux barrières de péage, vous modulez le prix du péage.
Frédéric.
Plusieurs remarques. La première, c'est que il faudrait pas que la question écologique bute sur, on va dire, des choses un peu qui vont susciter des controverses, les jets et autres. Parce que il y a des choses qui sont très importantes.
Avec les gilets jaunes.
Mais c'est-à-dire que il y a des questions importantes. C'est-à-dire que le gouvernement, je veux bien qu'il réfléchisse là-dessus et que les Verts réfléchissent aussi sur le sujet. Je dis pas que le sujet est mineur. Mmh. Mais il y a des choses qui urgent. Par exemple, la rénovation des bâtiments. Ça, c'est autrement plus passoire énergétique qu'autre chose. Bon, ça, c'est par exemple un élément. Il y a toute la réflexion à mener.
Vous allez voir quand les bâtiments classés, les logements classés F et G vont être interdits de location ou pas à la revente au 1er janvier prochain. Vous allez voir le tollé déjà.
Ensuite, il y a toute la question du transport. Quand vous pensez que, par exemple, on a abandonné complètement le ferroviaire pour la marchandise et que l'essentiel passe par la route. Bon, alors, on oublie aussi dans cette histoire que le numérique, c'est très polluant aussi. Hein. On croit que le numérique, c'est propre parce que ça a l'air d'avoir comme ça, d'être gentil et tout. Donc, je veux bien que...
C'est énergétique, ça, c'est énergivore.
Oui, c'est énergivore et c'est extrêmement polluant. Donc, on regarde l'aviation, mais on oublie le numérique, il est tout autant, si ce n'est davantage. Bon, donc, je me dis... Il faut pas que la politique soit juste des coûts comme ça d'ici de là. Ça, c'est un. Et deux, qu'on pense une véritable politique, et si le gouvernement veut bien discuter de ces sujets, qu'il nous propose aussi des choses plus ambitieuses, pareil. L'Europe, sur son marché de carbone ou autre, alors c'est la confusion générale, là-dessus, c'est encore l'Europe qui est caractérisée comme d'habitude par la confusion. Ça, c'est deux. Trois, comment concilier demain plusieurs choses? À la fois cette transition énergétique de manière démocratique, c'est-à-dire qu'elle ne devienne pas sous forme coercitive, vous avez raison de le dire, et que dans la répartition des efforts, ce ne soient pas toujours les mêmes qui les supporte. Et l'inflation, pourquoi à mon avis elle va être structurelle, pas simplement parce que c'est vrai la mutation de l'inflation, de la mondialisation en cours, mais parce qu'on va aller dans un monde de relative raréfaction de certaines ressources, donc qui vont entraîner forcément une inflation qui ne sera pas juste liée à une guerre épisodique ou plus ou moins durable, mais qui va être liée vraiment à des transformations profondes. Et je pense que c'est sur ces questions-là qu'il va falloir insister.
Il nous reste une grosse minute. Comment vous la sentez, la campagne de communication qui va monter en puissance en vue de l'hiver prochain sur l'économie d'énergie, sur le thème « la meilleure énergie est celle qu'on n'utilise pas ». Enfin voilà, ça va être...
Je sens de la culpabilisation enrobée d'un marketing creux.
Jean-Marc,
si on n'a pas de pétrole, on a des idées.
Mais je suis plus sûr qu'on en ait.
Mais je suis pas sûr qu'on en ait.
Ça va nous ramener quelques 45 ans, 50 ans en arrière.
Non. Quand je vois la confusion qu'il y a au niveau de la définition même de l'inflation aujourd'hui, quand je vois la confusion des commentaires qui sont faits aujourd'hui, parce que vous n'en avez pas parlé, vous êtes gentil, sur la baisse de l'euro, alors que moi j'ai assisté à l'arrivée de l'euro.
On en a parlé.
Oui, à l'arrivée de l'euro, l'euro était surévalué. C'était l'euro fort. On considérait ça comme un inconvénient majeur. Non, je crois que le débat économique, il a besoin de sérénité et de pédagogie.
Le retour à la chasse au gaspillage, ça va être ça tout l'automne là.
En tout cas, moi, je préfère qu'on finance des pompes à chaleur plutôt que de donner 30 centimes par litre de carburant pour réduire le prix.
Ça va être ça le problème. Ça l'est aujourd'hui.
Et comment on va résoudre ça? Voilà. La ristourne, vous la voyez continuer au-delà du...
Non, je trouve qu'on a deux manques aujourd'hui, deux besoins. On aurait besoin d'entendre des écologistes responsables qui nous donnent des solutions.
Bon, il y en a quand même.
Il y en a, mais ils se font pas bien entendre. Ils sont pas très... Enfin, et d'autre part, il faudrait aussi que la Commission européenne, ou même l'Europe des chefs d'État et de gouvernement, se mobilise complètement là-dessus, parce que c'est là le problème.
Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'être venu ce soir dans les débats entre 18h30 et 19h sur BFM Business. Jean-Marc Sylvestre, Frédéric Farah et Pierre Kufferman. Merci messieurs d'être venus nous voir ce soir sur BFM Business. 18h56, on marque une pause. Le journal dans un instant. Et puis on parlera de ce dîner tout à l'heure à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avant le premier conseil des ministres demain à l'Elysée. Ben, on va passer en revue les gros dossiers. Ils sont nombreux. Ils sont ambitieux. On en parlera avec la députée Renaissance Marie Lebec, députée des Yvelines. À tout de suite.
Good evening business. L'invité.
19h20 sur BFM Business et donc Marie Lebec est avec nous ce soir. Bonsoir Marie Lebec. Merci députée Renaissance de la 4e circonscription des Yvelines. Rentrée sociale qui se précise, on le disait, alors qu'il est peut-être à démarrer ce dîner de travail entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour passer en vue les grands dossiers de la rentrée. Et on nous dit l'un des sujets maîtres ce soir, ça sera la mobilisation générale pour la sobriété énergétique. On sait qu'Elisabeth Borne va prononcer un grand discours la semaine prochaine sur ce sujet à l'université d'été du MEDEF. Comment est-ce qu'on va amener ça, cette sobriété énergétique? Ne serait-ce que pour l'hiver prochain, c'est un vrai défi de communication, pas que, mais aussi de communication, Marie Lebec.
C'est un défi de communication et d'accompagnement aussi, à la fois des Français les plus fragiles, de l'ensemble des Français, puisque nous avons mis en place un bouclier, notamment sur le gaz, sur l'électricité, sur l'essence. Il y a des mesures d'accompagnement complémentaires qui vont arriver. On a souhaité, la reprise de la session parlementaire après les élections législatives, pouvoir voter un texte de pouvoir d'achat qui rentrera en vigueur dès le mois de septembre, afin d'accompagner au mieux, puisqu'on sait que la période de la rentrée septembre-octobre sont souvent des périodes qui sont assez importantes. Mais il n'y a pas que les Français, il y a aussi nos entreprises qui vont être soumises à rude épreuve et avec qui nous devons trouver les solutions. Et enfin, probablement un texte de loi un projet de loi qui sera présenté et qui devrait permettre de travailler sur la diversification de notre mix énergétique.
Absolument,
ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques heures, c'est plutôt du moyen terme. Mais en attendant, il faudra effectivement que chacun, particulier comme entreprise, fasse cet effort pour trouver les bons leviers de sobriété énergétique.
Je parlais de communication parce que c'est effectivement le grand enjeu. Comment est-ce que vous allez amener ce débat sur la sobriété énergétique sans entretenir l'idée de l'écologie punitive?
Je crois que
la sobriété coercitive, voilà les termes qui commencent à émerger aujourd'hui.
Mais je crois que chacun est conscient conscient, bien sûr, de à quel point notre indépendance énergétique est importante aujourd'hui, et donc que nous devons nous battre pour diversifier, à la fois en nous appuyant sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables, mais qu'en attendant cette diversification qui va être mise en place, oui, que chaque mesure que le gouvernement va prendre devra permettre justement d'accompagner la transition écologique, et notamment ça passe aussi par la question de sobriété. Il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de dispositifs que nous avons votés, que nous avons adoptés à l'occasion de lois précédentes, par exemple sous le mandat précédent, et que nous devons aussi parler de ces dispositifs qui doivent pouvoir servir aux Français et qui doivent leur dire, par exemple, si vous devez faire isoler votre logement, sachez qu'il y a des dispositifs qui vous aident et qui vous permettent de vous accompagner, et vous faites ainsi des économies.
Mais avec un reste à charge quand même souvent absolument inabordable pour beaucoup de ménages. Enfin, c'est ça. On a l'impression d'entrer dans le dur de cette transition énergétique avec l'idée, on le constate, vous parlez de l'isolation des bâtiments, des logements, que malgré tout, cette écologie, cette sobriété énergétique, elle aura un coût. Voilà. Et ça que malheureusement... Est-ce qu'on n'a pas tort de ne pas tenir aussi ce discours de vérité, finalement, de dire que...
Je pense qu'il est en partie tenu, notamment par le président de la République, qui, je crois, à l'occasion de son discours...
Il faut pouvoir l'assumer pour vous que
la
transition énergétique aura un coût pour tout à chacun, finalement.
Oui, mais le sujet, c'est...
On n'est pas dans le déni, voilà.
Non, mais d'une, il ne faut pas être dans le déni, et je crois qu'il faut tenir un discours clair et de vérité. Ensuite, il y a plusieurs leviers pour le faire. Encore une fois, il y a la question de ce que nous avons assez bien fait avec le plan France Relance, c'est aussi de dire nous avons des industries qui sont en capacité d'apporter des solutions, soit pour le particulier, soit pour elle-même, soit pour d'autres industries. Et on doit, par exemple, favoriser la diminution de la consommation énergétique de nos industries, la décarbonation de nos industries également. On doit pouvoir accompagner les ménages, mettre des dispositifs qui, peut-être sur des périodes courtes parfois, mais de manière un peu intensive, vont les aider à faire leur conversion sur le véhicule. On a renforcé les dispositifs de prime à la conversion, la prime à la conversion qui est éligible pour le vélo, faire l'isolation des logements. Donc, il faut, je pense, pour l'État, être habile, être agile et ensuite, effectivement, accompagner. Mais je pense que c'est important vis-à-vis de nos concitoyens de dire oui, nous engageons en matière de transition écologique et la sobriété énergétique est un point important de cette transition et nous devons avancer ensemble pour trouver les bonnes solutions.
L'autre grand enjeu, nous reste 3-4 minutes, Marie Lebec, c'est le pouvoir d'achat, évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour, d'un côté, exercice périlleux, vouloir préserver autant que faire se peut le pouvoir d'achat des Français et de l'autre, maintenir tant bien que mal les déficits et la dette dans l'état où ils sont, avec une dette qui s'approche des 3 000 milliards. J'ai l'impression que là aussi, il y a un petit peu de cafouillage.
Je pense que, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, il a un discours qui est très clair. Il dit d'une...
Et dans son rôle, je suis d'accord avec vous.
Et il a à la fois un discours, moi je l'ai accueilli à l'occasion de ma campagne législative, et on a eu ce débat dans ma circonscription, qui est un débat qui inquiète certains de nos concitoyens, effectivement, de dire, mais est-ce qu'on risque pas d'avoir une explosion de la dette, ou alors est-ce qu'une remontée des taux d'intérêt n'aurait pas des conséquences très importantes sur la situation de nos finances publiques? Mais je crois que le ministre a raison en la matière de dire... Quand c'est les moments les plus difficiles, il faut accompagner les Français, il faut les protéger. Et je crois notamment que la dynamique de croissance qui a suivi la crise Covid est la démonstration que la politique que nous avons engagée était la bonne. On voit bien là en matière d'inflation, quand on écoute le ministre de l'Économie et des Finances qui s'appuie sur des prévisions qui sont réelles, on est au pic de l'inflation. C'est important de mettre les dispositifs. On sait que la rentrée scolaire...
On va faire un pari assez rapide que dire on est au pic de l'inflation.
Non mais, aujourd'hui pour vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est de dire notre stratégie, c'est que en ce moment nous connaissons une inflation qui est particulièrement forte, et on sait qu'en plus au moment de la rentrée scolaire, vous avez tout un tas d'inscriptions, de surcoûts supplémentaires, et que donc il est important et utile d'accompagner les Français. Encore une fois, ces mesures, elles ne vont pas être pérennes dans le temps, elles seront dégressives à partir du moment où effectivement on aura une baisse de l'inflation.
Mais
et puis par ailleurs,
on croit comprendre que dans le budget sur lequel vous allez, l'examen du budget sur lequel vous allez vous pencher pour 2023, les économies, elles sont pas pour tout de suite, finalement, que la douloureuse ou les mesures de redressement, ça sera plutôt pour 2024. Est-ce que vous nous confirmez que c'est la tendance? Est-ce
encore
qu'on
pourra
comprendre dans les arbitrages qui ont été rendus?
On verra. Moi, je n'ai pas encore les arbitrages qui seront rendus sur le projet de loi de finances. Mais encore une fois, nous avons su faire cet effort à l'occasion du premier quinquennat, avant la crise Covid. Nous avons réduit notre endettement. Et je crois que nous saurons trouver les bons leviers, justement, pour accompagner. Et puis après, encore une fois, nous avons aussi la conviction qu'en créant du travail, en créant de l'emploi, en réindustrialisant notre pays, en créant de la croissance, croissance et les conditions de la croissance, nous permettons aussi à l'État d'avoir davantage de prélèvements et donc, in fine, davantage de rentrées d'argent.
Quelques secondes, seulement 30 secondes. Est-ce que la députée que vous êtes craint le débat budgétaire qui va commencer dans quelques semaines quand on voit quelle a été la nature du débat sur le pouvoir d'achat? Est-ce que vous anticipez des moments douloureux?
Ce sera un débat intense parce que c'est pas la même assemblée effectivement qu'il y a 5 ans. Après, chacun devra aussi prendre ses responsabilités. On a fait un texte de pouvoir d'achat. Je crois qu'il y a aussi question de santé de nos finances publiques qu'il faudra regarder avec attention. Oui. Et donc, il faudra trouver le bon équilibre. Et je crois que chacun devra prendre ses responsabilités à cette occasion.
On viendra nous en reparler à l'occasion de ce débat avec qui plaisir. Sera en couleur. Merci beaucoup, Marie Lebec, députée Renaissance de la 4e circonscription des Yvelines. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business. Voilà, 19h27, c'est la fin de la première partie de Good Evening Business. Dans un instant, le rappel des titres. Et puis, Edwige Chevrillon qui accueille l'économiste Elie Cohen. Je vous retrouve demain à partir de 18h. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Audrey Tcherkov qui sera avec nous à partir de demain et toute la saison pour notre plus grand plaisir, tous les soirs entre 18h et 19h30 à mes côtés dans Good Evening Business. Très bonne soirée à toutes et à tous. À demain.
BFM Business. Good Evening Business. La grande interview, Edwige Chevrillon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview de BFM Business avec moi comme invité ce soir l'économiste Elie Cohen. Bonsoir Elie Cohen, merci d'être avec nous. Vous êtes un des meilleurs économistes sur toutes les questions industrielles et là on sent que notre industrie, je ne sais pas si elle est en train de foutre le camp, mais en tous les cas elle est mise à mal par l'augmentation, la flambée même des prix de l'énergie. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans toute l'Europe. D'abord, on peut dire que cet été, on voit les chiffres, cet été a vraiment été un été meurtrier sur le plan de l'inflation et les conséquences que ça a sur même les structures industrielles.
Meurtrier, s'il y avait une tendance régulière et non contestée à la hausse des prix, puis au phénomène cumulatif d'inflation avec la mise en place de boucles prix-salaire, je pourrais vous dire oui, et je pourrais essayer d'analyser avec vous les raisons pour lesquelles on aurait assisté à cette flambée de l'inflation. Le problème, c'est qu'on a passé l'été sur le mode du yo-yo. C'est-à-dire, un jour, on nous disait que l'inflation était en train d'être maîtrisée, le lendemain qu'elle flambait, le surlendemain qu'elle était un phénomène transitoire uniquement lié aux phénomènes énergétiques et alimentaires, et le surlendemain, on nous disait que, mais non, pas du tout, ça commençait à gagner les salaires à travers les mécanismes d'indexation. Donc je crois que la première caractéristique, c'est l'incertitude, la volatilité et l'imprévisibilité. Ceci dit, vous allez me dire, bon, enfin quand même, ce que ressentent les gens, c'est que quand même, globalement, les prix montent et qu'on ne maîtrise pas bien le phénomène.
Oui, les chiffres sont là quand même, on est à plus
alors,
de 6%.
Voilà. Alors justement, je crois que pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, même ce mois-ci, il faut essayer de faire un large détour et essayer de comprendre ce qui s'est passé, au fond, dans l'année qui s'est écoulée. Il y a un an, si on fait l'opération d'esprit, qui consiste à dire, si vous m'aviez invité il y a un an, qu'est-ce qu'on aurait dit il y a un an? Si on m'avait invité il y a un an, on aurait dit, on a connu une tempête incroyable avec le Covid, les phénomènes de fermeture de l'économie, ça a massivement déprimé l'activité, mais c'est en train de reprendre.
Absolument,
l'investissement repart, les Français se mettent à consommer, et même, divine surprise, ils ont un matelas de près de 200 milliards d'euros d'épargne supplémentaire qu'ils vont pouvoir mobiliser, donc... Et en plus, les tensions qui existaient sur certaines matières premières sont en train de se relâcher. La Chine est en train de repartir. Donc, nous sommes sur la voie de la récupération. Et si l'effondrement de l'économie a été manifeste en 2020, la reprise en cet été 2021 est formidable. Eh bien, un an après, patatras, vous m'interrogez sur la persistance de l'inflation, sur les évolutions différentes aux États-Unis et en France, et on est obligé de chercher à comprendre. Alors, la question, il suffit de voir ce qui s'est passé pendant l'année écoulée pour essayer de remettre les différents éléments en place. Ce qui s'est passé au cours de l'année, c'est on croyait qu'on en avait fini avec le Covid, pas du tout. Le Covid est reparti plus fort encore en Chine et il y a eu, avec la politique du zéro Covid, des fermetures de régions de 30 millions d'habitants avec des effondrements de production et de nouveau des difficultés logistiques. On croyait qu'on avait éloigné la perspective des difficultés logistiques. Non, non, elles reviennent et de nouveau, on s'est remis à parler des tensions sur les composants, etc. Donc ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, personne n'avait vu venir la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et bien entendu, cette guerre a tout bouleversé. D'abord, parce que elle a activé un autre moteur de l'inflation redoutable, qui est l'inflation des biens agricoles et alimentaires, parce qu'il se trouve que la Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs et exportateurs de biens alimentaires. Et donc la perspective de la famine a commencé à être agitée de nouveau. Et bien entendu, les prix dans ces cas-là, dans ces situations d'incertitude, se mettent à flamber, oui.
Et non, juste, est-ce que vous diriez, c'était un économiste, j'ai beaucoup aimé cette phrase, le gaz naturel est une arme bien plus efficace dans les mains des politiciens russes que la Kalachnikov.
Ah ben oui, alors
bien là, entendu, on en a...
Alors bien entendu, le plus drôle, c'est que pendant que nous, Européens, nous discutions des moyens de sanctionner la Russie en nous abstenant d'acheter son gaz, ben c'est Poutine qui, en orfèvre, se mettait à jouer de l'ouverture, de la fermeture, de la livraison élective à certains pays et pas à d'autres, de l'exigence de payer un jour en rouble et le long... Enfin, bref, il a effectivement joué de manière infiniment plus efficace de l'arme du gaz que de la Kalachnikov. Donc c'est la deuxième couche qui est venue se rajouter, parce que la couche Covid n'a pas disparu. Non. C'est une deuxième
Donc
couche
là,
qui s'est ajoutée.
On a la deuxième couche et la troisième.
Et maintenant la troisième, c'est...
Ah oui. Bah, c'est ce qui se passe en ce moment même.
Ce qui se passe en ce moment, ouais. C'est-à-dire la sécheresse et de nouveau les tensions sur les prix des produits agricoles, la chute de production.
Ah, pour moi, la troisième couche, c'est l'effet monétaire avec un dollar qui vaut plus
qu'un
euro. Ce qui change énormément la donne.
Pas du tout, si vous voulez. Ces trois couches s'ajoutent et leurs effets aux trois sont amplifiés par la divergence des politiques monétaires entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, du coup, le dollar qui était déjà investi d'une valeur de précaution, il a son pouvoir surmultiplié avec la hausse du prix du pétrole et du gaz, qui fait que pour les pays nettement importateurs, le renchérissement est encore plus net, et l'affaiblissement relatif de l'euro par rapport au dollar, qui augmente encore la facture, ce qui fait que pour un pays comme la France, qui était habitué, disons, à avoir un déficit énergétique de 30 à 35 milliards, on s'attend cette année à avoir un déficit énergétique de, tenez-vous bien, 100 milliards d'euros.
Sur 2023 ?
Sur
2022, pardon.
Sur 2022.
100 milliards d'euros.
Oui. Ouais, c'est 40 à 100, vous voyez ce que... Et donc, si vous voulez, on a perdu même le sens des ordres de grandeur.
Complètement. De manière
on était habitués.
Même nous, on brasse les chiffres, on ne sait même plus
si c'est
des millions, des milliards.
Moi, j'ai été habitué à parler du gaz, du prix du gaz à 3 dollars le million de BTU, etc. Et même moi, il m'arrive de regarder les chiffres deux fois, trois fois. Est-ce que vous savez que le prix du gaz et le prix de l'électricité a été multiplié par 10 au cours de l'année qui s'est écoulée? Ce n'est pas une augmentation de 10%, c'est une augmentation de 1000%.
Ouais, c'est assez...
Alors, comment voulez-vous penser l'économie?
Voilà, on va penser l'économie et puis penser entreprise, penser
Absolument.
Industrie, parce que les ravages sont énormes.
Et bien entendu.
On le voit au niveau de l'industrie européenne avec des usines métallurgiques qui ferment partout.
Absolument. Alors, c'est ce qu'on a découvert, c'est effectivement que le gaz et l'électricité sont une matière première essentielle pour un certain nombre d'activités. Alors, on le savait pour la chimie. On le savait, par exemple, pour la métallurgie, notamment pour l'aluminium. On sait que la matière première essentielle de l'aluminium, c'est l'électricité. Mais découvrir à quel point des pays comme l'Allemagne, qui est le cœur manufacturier de l'Europe, sont impactés par cette crise du gaz, avec un prix du gaz qui a été multiplié par 10, encore une fois. Quelle production pouvez-vous continuer à assurer lorsque du jour au lendemain, c'est-à-dire sur un an, le prix de votre matière première essentielle est multiplié par 10? Et donc, c'est ce qu'on connaît actuellement. Donc, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que certaines activités disparaissent purement et simplement. On a beaucoup parlé ici de désindustrialisation, mais alors la vague actuelle dans la métallurgie provoquée par les prix du gaz et de l'électricité est absolument terrifiante.
Et dévastatrice, mais surtout, Elie Cohen, c'est que pour cette transition écologique que tout le monde appelle de ses voeux, on a besoin, que ce soit pour fabriquer des éoliennes offshore ou onshore, ou ce que vous voulez, tout ça, on a besoin de la métallurgie. Donc là, on est en train de se trouver dans un goulot d'étranglement.
Alors vous avez raison, et vous voyez qu'on
nourrir progresse encore plus l'inflation.
Alors vous avez raison, et vous voyez qu'on progresse dans la compréhension de l'inflation, parce que en gros, vous avez la moitié du phénomène de l'inflation qui est lié à la volatilité des prix de l'énergie, la moitié. Vous avez un 20%, 25% supplémentaire qui est lié à la flambée des prix agricoles et alimentaires. Ouais. Et vous avez derrière 10 à 15% supplémentaires qui viennent de la flambée d'autres matières premières. à cause, effectivement, des difficultés et des coûts pour raffiner les différents métaux dont on a besoin. Vous avez parlé des différents métaux rares qui sont nécessaires.
Et en plus, il y a les puces, les semi-conducteurs, tout ça.
Le cobalt, etc., dont on a besoin pour la transition énergétique.
Donc, moi, j'ai quand même une question.
Donc, vous avez ces trois phénomènes qui se rajoutent, et plus, encore une fois, l'évolution des parités.
Oui, beaucoup s'interrogent pour savoir si la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, n'a pas été un peu en retard, manqué de lunettes de vision par rapport à la façon de nous expliquer qu'elle était totalement conjoncturelle. On voit qu'elle est structurelle. Certes, maintenant, la BCE est en train d'agir, mais est-ce que ce n'est pas trop tard?
La réponse est clairement oui, c'est-à-dire que les États-Unis ont agi beaucoup plus tôt pour essayer de refroidir leur économie, et ils ont fait déjà trois hausses de taux pendant que nous, en Europe, on n'a rien fait. Mais à la décharge de Mme Lagarde, la politique monétaire en Europe doit gérer deux exigences contradictoires. La lutte contre l'inflation, certes, mais également la stabilité financière européenne et la stabilité de l'euro, éviter l'éclatement de l'euro. Parce que l'euro pourrait partir en vrille si une nouvelle crise financière démarrait en Italie. Donc en essayant de pondérer les plus et les moins sur la politique monétaire avec la politique macro-prudentielle et la préservation du statut de l'euro, finalement, elle a probablement tardé à agir. Mais il faut dire que tout le monde disait que l'inflation n'était pas une inflation monétaire. Oui. C'était une inflation qui était liée au cycle de production, au cycle logistique, au sous-investissement.
C'est un choc absolument gigantesque qu'on est en train de connaître. Voilà. Parce que là, on est dans l'analyse, on décrypte ensemble les Cohen. Mais demain, il va falloir, et donc déjà aujourd'hui, que les chefs d'entreprise réinventent complètement leur modèle d'affaires, leur modèle de leur avantage compétitif. Il faut complètement le réinventer.
Non, mais il est clair que pour ce qu'on appelle les industries électro-intensives, il va falloir repenser modèle productif. Mmh, puisque longtemps, on a pensé que le grand avantage de la France, c'était justement le faible coût de l'énergie, et notamment de l'énergie électrique, et notamment de l'énergie nucléaire, qui permettait d'ailleurs de concevoir de grandes usines métallurgiques, de grandes usines d'aluminium dans le nord, près de centrales nucléaires, etc. Aujourd'hui, on sait la difficulté qu'on a à faire tourner nos centrales vieillissantes. Et en plus, il y a globalement pénurie et donc hausse des prix. Encore une fois, le prix de l'électricité a décuplé en un an.
Oui.
Alors, on s'en rend pas bien compte en France parce que les particuliers, finalement, grâce aux différents boucliers, le bouclier tarifaire gaz, le bouclier électricité, ont été relativement préservés. Mais ces boucliers ne concernent que les consommateurs, ils ne concernent pas les entreprises. Et puis deux, ces boucliers sont une exception au niveau européen par rapport à ce qui s'observe ailleurs. Savez-vous qu'au Royaume-Uni, le budget des ménages britanniques consacré à l'énergie a triplé, voire quadruplé. Et nous, on se plaint des 4%.
L'inflation pourrait atteindre 18,6% début 2023 en Grande-Bretagne.
Ah oui.
La chiffre qui vient de tomber, c'est quand même impressionnant.
Et là, on est déjà à plus de 10% en juillet de cette année. Oui. Et puis, donc, vous voyez que le phénomène, au Royaume-Uni, lorsqu'on dit on va laisser les forces du marché jouer, ça veut dire, pour les ménages, une correction drastique de leur pouvoir d'achat.
Élie Cohen, il y a quand même une question. Le nucléaire était la force de la France. Vous l'avez dit, tout le monde s'est reposé dessus en disant le prix de l'électricité est très faible. En fait, on s'est fait piéger soit par les politiques, on s'est fait piéger aussi par l'Europe, parce que les Allemands jouaient plus cette carte-là, et donc on n'a pas su imposer le nucléaire, l'énergie nucléaire, et puis on avait les Verts, les décisions de François Hollande de fermer Fessenheim, même si c'est Emmanuel Macron qui l'a fait in fine. C'est des erreurs successives, quand même.
Non, c'est... Si,
non ça, vous qui connaissez ça mieux que tout le monde.
Non, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que le nucléaire a été une formidable réussite française.
Mais il s'est arrêté, qui est plus efficace.
Que les Français n'ont pas réussi à exporter au niveau européen, ça c'est clair. On s'est battu contre les Allemands de toutes les façons possibles et imaginables. Ouais. On a cherché à nous allier avec eux pour les EPR. On a cherché à rapprocher des entreprises françaises Framatome et Siemens. On a fait des tas de choses. Mais fondamentalement, le climat en Allemagne était hostile au nucléaire. Et en plus, les élites allemandes considéraient que le nucléaire était une fantaisie de petites grandes puissances françaises et qu'au fond, c'était bien de nous rabattre le caquet dans ce domaine-là. Donc, nous avons échoué dans ce domaine-là parce que c'est l'Allemagne qui a donné le « là » au niveau européen. À ça, il faut y ajouter que le consensus nucléaire en France s'est progressivement délité. Ça a d'abord été la contestation des écolos. Très tôt, ça a été une contestation d'abord antinucléaire.
Et, oui,
pas du tout, et pas du tout contre le réchauffement du climat. Et puis, la contagion, ça a été le Parti Socialiste, dès Jospin, et encore plus avec Hollande, avec cette idée absurde qui consistait à dire qu'il fallait aller vers un mix 50-50.
50-50.
Je me demande pourquoi. Et puis après, la combinaison du désarmement français et de l'hostilité européenne a abouti à cette monstruosité qu'a été l'AREN, c'est-à-dire on a introduit en France une concurrence forcée
et pré-régulée, l'AREN, je précise,
entre EDF et ses concurrents, sauf que les concurrents n'avaient rien à faire, ni à investir, ni à développer une activité, ni à développer un modèle d'affaires crédible. Ils se contentaient de recevoir de l'énergie qui était fournie par EDF à très bas coût, à 40 euros le mégawattheure, et à faire des factures pour les consommateurs qui venaient chez eux.
Un des emballements, vous soulignez à l'instant, l'emballement du prix de l'électricité en ce moment même. Hein.
Oui.
C'est parce que le marché, en fait, estime que EDF ne pourra pas tenir ses promesses de production d'énergie. On sait qu'il y a de nombreuses centrales qui sont fermées. Et c'est, donc, en fait, tout converge vers les difficultés d'EDF.
Ben oui, si vous voulez, notre modèle énergétique en matière d'électricité, j'insiste.
La filière même est mise à mal.
Parce que l'électricité, ce n'est pas tout. Mais en tout cas, pour l'électricité, notre modèle, c'était le nucléaire. Et au-delà du nucléaire, je dirais les énergies décarbonées, puisque le reste venait de l'hydroélectricité. Et le reste, c'était vraiment epsilon. Alors, bien entendu, lorsque le nucléaire va mal, soit pour des raisons climatiques, on l'a vu récemment avec des centrales qui rejetaient.
La sécheresse, évidemment.
À cause de la sécheresse. Soit pour des raisons de retard dans les politiques d'entretien, puisque un certain nombre de centrales avaient leur révision annuelle, soit à cause de retards plus importants dus au Covid qui ont fait que l'activité a été arrêtée, et ben nous nous retrouvons avec notre source essentielle dont pratiquement la moitié de la ressource est en difficulté à cause des désorganisations diverses liées à ces différents points. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de manière de remplacer rapidement l'énergie qu'on n'a pas. Et donc le paradoxe, c'est que nous sommes devenus de gros importateurs d'électricité d'Allemagne et d'ailleurs, parce qu'il se trouve que nos cycles de consommation ne sont pas les mêmes. Et grâce à l'unité du marché européen, nous pouvons bénéficier de ces différentiels de rythme de consommation pour assouvir le marché français. Mais moi, je suis assez inquiet pour l'avenir, parce que cette question de la disponibilité du parc nucléaire ne va pas être réglée en une journée. Et puis surtout, il y a une espèce de consensus étonnant maintenant en France pour dire nous allons faire de nouvelles centrales. Mais de nouvelles centrales, ça va prendre 10 ans.
On ne sait toujours pas les sites, les nouveaux sites, on attend toujours.
On ne sait plus les faire. On ne sait plus faire une centrale. On a perdu la maîtrise de l'outil.
Perdu la compétence.
On a perdu la compétence. Il va falloir réinventer, reformer, requalifier, recréer un système industriel. Donc voilà, nous ne sommes pas dans une situation facile et on comprend.
Ben, oui, mais parce que ça, c'est au mieux du moyen terme. C'est du moyen terme,
absolument,
long terme.
Hein. Absolument.
Donc, court terme, comment est-ce qu'on va passer cette grosse bosse ?
Alors, court terme, vous voyez, c'est le discours qui est en train de seriner le gouvernement actuellement en nous disant, en gros, il y a le choix entre trois stratégies, le rationnement. Ça fait
la sobriété énergétique. On ne parle pas de rationnement, Élie Cohen. On
la sobriété
énergétique.
Ou l'efficacité.
Oui.
Alors, il y aura une certaine forme de rationnement, de toute manière. Hein. Si la menace du grand chaos se profile, il y aura une certaine forme de rationnement. Donc voilà, nous en sommes réduits maintenant à imaginer.
Et puis il y a quand même le plan sur les énergies renouvelables qui va sortir bientôt là. Donc
vous y croyez
pas du tout.
Si vous voulez, j'en renonce. Il y a 10 ans, je suivais les appels d'offres pour les éoliennes en mer. Mmh. Et il y a 10 ans, on disait déjà le drame français, c'est que les temps de procédure, les temps d'autorisation sont beaucoup plus longs. Il y a 10 ans, on disait qu'on allait simplifier la réglementation parce qu'on a une réglementation type Céveso chaque fois qu'on veut installer un parc d'éoliennes. Donc non, il faut dire les choses. Les Français s'opposent localement à ce qu'ils désirent globalement.
Oui, mais votre solution, et c'est, vous êtes chercheur au CNRS, directeur d'études, c'est quoi la solution ? là. Parce que là, on est dans une impasse, on est le dos au mur.
La solution, vous voyez bien.
Et on ne voit pas la solution en vous écoutant.
Vous voyez bien, c'est une combinaison de trois types de mesures. Un, diversifier effectivement les sources d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on avait mis une croix sur le charbon, sur le gaz, sur le pétrole, et ben on prolonge des centrales au charbon, comme en Allemagne on prolonge des centrales nucléaires ou en Belgique on prolonge des centrales nucléaires. Donc on change de fait dans l'urgence le mix énergétique, premièrement. Deuxièmement, trouver des nouveaux pays exportateurs. Et donc là, ce sont les accords qu'on essaye de passer, aussi bien avec la Norvège...
En Algérie, le président Emmanuel Macron part en Algérie, là.
Absolument.
Je ne sais pas si vous l'accompagnez, mais en tous les cas, il y va peut-être pour essayer de re-signer des accords comme François Mitterrand l'avait fait sur le gaz.
Vous vous souvenez, ça ne nous avait pas beaucoup réussi. Hein. C'était la France, François Mitterrand, voulait faire de l'accord gazier entre la France et l'Algérie une espèce de pierre fondatrice de la nouvelle relation équilibrée entre l'Algérie et la France. Et on la voulait tellement équilibrée que M. Chesson, vous vous en souvenez, avait plaidé et obtenu qu'on surpaye le gaz algérien par rapport aux cours internationaux pour montrer aux Algériens combien on les aimait et combien on voulait du gaz algérien. Quand vous regardez la postérité de ce type d'accord, ça n'a pas donné des succès formidables et ça a conduit Emmanuel Macron à dénoncer à juste titre, la rente mémorielle gérée par les généraux algériens. Je ne crois pas que sur cette base-là, on aura un nouvel accord de long terme. L'Algérie est très sollicitée, comme vous le savez actuellement, par l'Espagne, par l'Italie. Et puis l'Algérie met des conditions géopolitiques. Elle introduit une clause sur le Sahara, sur son conflit avec le Maroc. Donc je ne crois pas qu'il faille s'attendre à
beaucoup. Ce soir, peut-être ont-ils déjà commencé, pendant que nous parlons, Eli Cohen, le président de la République, reçoit la Première ministre, Elisabeth Borne, pour parler justement de sobriété énergétique. Ce que nous traversons en ce moment, vous avez décrit, et peut-être pour conclure, mais de toute façon, si on veut faire cette transformation écologique ou énergétique, on serait passé par là.
Oui.
Donc, quelque part, Vladimir Poutine, il a bousculé, certes, l'agenda, mais il a obligé, il nous a mis au pied du mur, encore une fois.
Tout à fait. Sauf que on aurait payé cher. Sauf que la hauteur de la marche est considérable. Lorsque la Commission européenne nous dit qu'il faut qu'on baisse notre consommation de gaz de 15%, ça veut dire qu'il faut qu'on la baisse plus que pendant la période du Covid. Vous imaginez, déjà à la période du Covid, on avait l'impression que tout s'était arrêté, que l'activité était en panne. Baisser de 15% la consommation de gaz, à court terme, c'est une entreprise redoutable et ça ne peut pas se faire uniquement par des petites mesures. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura des mesures très volontaristes qui seront prises. Alors certes, basées sur le volontariat, etc., mais un volontariat un peu forcé. Par exemple, les contrats d'effacement qui existent aujourd'hui avec les entreprises et qu'on va généraliser pour le grand public, ça c'est une façon de dire, eh bien, lorsqu'il y a des tensions, on coupe net. Et du coup, les activités domestiques que vous deviez avoir, vous les reportez à plus tard, ou certaines productions industrielles, comme aujourd'hui, vous les reportez à plus tard.
Est-ce que vous êtes pour interdire les voyages en jet privé?
C'est absurde, franchement, ce débat qu'on
est en train d'avoir. C'est eux qui... Paraît-il, en tous les cas, lorsqu'on regarde les chiffres de l'Observatoire de l'inégalité...
Moi, j'ai appris, je ne savais pas. Le chiffre, c'est que la consommation de ces jets privés, c'est 0,03%.
Sur les 3%.
Voilà. Sur les 3%. Alors, franchement, si c'est ça... Toute la consommation de l'aéronautique, c'est 3%, et ces jets privés, c'est 0,03%. Donc franchement, c'est pas ça l'enjeu. On perd son temps dans des débats de ce type.
Inquiet. Vous êtes inquiet, Eli Cohen, quand même, pour ce
truc. Je crois que la perspective... Du grand blackout n'est pas à exclure.
Du court-circuit géant, en tous les cas.
Parce qu'il n'y a pas de solution facile. On a vu, il faut changer de fournisseur, il faut changer d'énergie, il faut trouver de nouvelles sources, il faut que les Français changent vraiment de comportement. Et quand on voit leur réaction en disant qu'on leur arrache les tripes quand on augmente le prix du gaz de quelques centimes, non, franchement... Les Français sont très protégés.
Voilà, ça sera le mot de la fin. En tous les cas, vous reviendrez nous voir avant un an. Merci beaucoup, Eli Cohen. Merci. J'espère que quelque part, vous n'avez pas forcément raison. Mais en tous les cas, on a bien compris votre analyse. Merci beaucoup. Dans un instant, Tech & Co. Évidemment, nous, on se retrouve demain, là, tous les jours. Le grand entretien, 19h30, 20h. Bonne soirée.
Good Evening Business, la grande interview.